Ce matin, on retourne dans notre série dans Jean. Ça fait presque un an qu'on l'a commencé, puis ça fait presque un an qu'on est sur pause, ça fait à peu près 6 mois en fait, d'accord? Au début de la pandémie, on a mis une pause, on était dans l'Évangile de Jean, puis on a cherché à aborder différents sujets qui semblaient à propos dans le cadre de la pandémie. C'est quand même une année exceptionnelle, une année extraordinaire. Mais là, on a décidé, c'est le temps, on revient dans Jean. Les choses ne sont pas toutes revenues à la normale, mais nous, on veut revenir dans cette bonne diète-là. Et je veux juste prendre un instant pour dire pourquoi est-ce qu'à l'Église de l'Espoir, la majorité du temps, normalement, quand on n'est pas en pandémie mondiale, on est en train d'exposer des livres bibliques. Pourquoi est-ce qu'on prend un livre dans les Écritures puis on passe tranquillement à travers le livre, des fois très vite, c'est-à-dire qu'on va y aller par grandes sections, d'autres fois très lentement, y allant par des tout petites sections de versets? Bien, c'est parce qu'on pense que c'est ça la bonne diète pour une église. C'est ça la bonne nourriture spirituelle. Quand, dans une église, le pasteur ou les enseignants passent leur temps à choisir des sujets dans les Écritures, toujours en enseignant la parole, mais passent leur temps à choisir des sujets dans les Écritures, il y a un élément où c'est très, très subjectif, puis bien, nous, on n'est pas Dieu. Dieu nous a donné sa parole. Et donc, on pense que c'est beaucoup plus sain tout simplement de prendre un livre de la Bible et passer à travers le livre de la Bible, toujours en cherchant à l'appliquer à notre époque, à notre contexte, mais en comprenant c'est quoi le message principal du texte qui est là. Donc moi, je suis très heureux de revenir à ça, de revenir dans l'exposition d'un livre. On s'en va dans Jean et on arrive dans Jean 3. Puis, donc là, vous allez pouvoir nous suivre. De semaine en semaine, vous pouvez lire le passage d'avance. Vous les avez dans le bulletin, vous pouvez prendre de l'avance, méditer là-dessus. Dans le passage où on arrive ce matin, il y a un paquet d'émotions. C'est un passage où il y a de la colère. Il y a grosse colère, réelle colère. Il y a, dans ce passage-là, il y a de la jalousie, des déchirements relationnels. Il y a de la joie aussi. Il y a beaucoup de joie dans le passage. Et pour ma part, ce que je veux, c'est la joie. Moi, je veux vivre la joie que m'offre ce passage-là. La colère, personnellement, c'est pas toujours bon pour moi. Ça donne pas toujours des résultats. Ces choses-là, je laisse ça à Dieu. J'essaie de me détacher de ça le plus possible. La jalousie, ça brise les relations. Mais ce que je veux vivre, c'est la joie. Et ma prière, c'est que vous partiez d'ici, vous retiriez en web diffusion de cet exposé la joie que donne l'Évangile de Jésus-Christ. On va l'ensemble dans la prière, puis on va écouter la lecture de ce beau passage de l'Évangile de Jean. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin. Tu es Seigneur. Ce passage nous dit que tout a été remis entre tes mains. Toute autorité t'a été placée au-dessus de tout par ton Père. On voit souvent dans le Nouveau Testament que les prières te sont adressées à toi. Souvent au Père, mais souvent aussi au Seigneur Jésus. Seigneur, c'est toi qui viens du ciel. Sur la terre, on est en train d'essayer de trouver comment gérer la pandémie. Sur la terre, on essaie d'établir nos vies. On cherche conseil auprès les uns des autres. On se tourne vers des gens sages autour de nous. On cherche des conseils, des experts pour mieux gérer les choses. Mais Seigneur, un seul vient du ciel, c'est toi. Et ce matin, on veut se placer à tes pieds, comme Marie, recevoir ton enseignement, recevoir le témoignage qui nous vient du ciel qu'on trouve dans Jean, Seigneur. Et viens nous donner cette joie parfaite, cette joie véritable, profonde, qui dépasse les circonstances que vivait Jean-Baptiste, alors qu'il avait compris, alors que Dieu lui avait révélé que c'est toi le sauveur des hommes. Viens nous donner, Seigneur, cette joie, cette vie éternelle en nous. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu dans Jean 3.
Bonjour. Alors, dans Jean 3, les versets 22 à 36, dans la nouvelle édition de Genève. Jean 3, 22 à 36. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, « Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.
Merci Esther. On a donné comme titre à cet exposé « Les amis du Christ ». Mais on aurait pu aussi l'intituler « Je suis deuxième ». Je ne sais pas si vous connaissez ça, je suis deuxième, si vous avez déjà écouté des vidéos, on les trouve sur Facebook, sur YouTube, en français, en anglais. Je suis deuxième, c'est une ressource qui a été développée pour équiper les chrétiens à partager leur foi, à partager l'Évangile. C'est vraiment un beau concept, puis je suis deuxième derrière Christ. Et donc, c'est vraiment, c'est une réalité pour les chrétiens. Lorsque tu deviens chrétien, avec joie, t'embrasses cette position de deuxième, de second. Tu laisses Christ à la tête, tu le laisses devant toi. Et je vous souhaite en fait à tous de suivre cette formation-là. On la donne ici à l'Église de l'Espoir. C'est vraiment une belle approche pour apprendre à partager l'Évangile avec des amis, partager notre témoignage. Mais surtout, ce que je souhaite à tout le monde qui va entendre cet exposé-là, c'est d'avoir cette grâce-là dans sa vie, de choisir d'être deuxième. C'est contre-culturel. Ça va contre la pensée occidentale moderne. Mais quelle grâce et quelle joie de choisir personnellement d'être deuxième derrière Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste, dans ce passage-là, est une des belles illustrations dans la Bible qu'on a de cette idée-là qu'un chrétien est toujours deuxième derrière Christ. Écoutez ce qu'il dit au verset 29. « Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Cette semaine, j'ai pris le temps d'envoyer un petit mémo à mon ami, à un de nos pasteurs, Michel Vincent, qui marie cet après-midi sa fille Camille, que vous voyez régulièrement ici chanter. Il fallait suivre ça sur YouTube ou avec Facebook. Puis j'ai envoyé un petit mot. Il me partageait les sentiments un peu ambivalents qu'il vivait avec Julie cette semaine, de dire hey, « on est super heureux, mais en même temps, oh, Camille, elle quitte la maison, elle ne sera plus là. » Puis j'ai envoyé un petit mot parce que j'étais en train d'étudier le passage, puis j'ai dit « ouais, mais c'est un peu ça, hein? C'est un peu ça lorsque des parents laissent leurs enfants partir s'établir dans la vie, Dieu voulant, dans le Seigneur, un beau mariage. » Bien, on est en train d'accepter à quelque part que notre vie à nous s'en va vers la fin, qu'eux autres maintenant prennent la place, puis qu'ils portent notre nom, puis qu'ils prennent la place sur la terre. Je trouvais que c'était tellement une belle illustration de cette décision que Jean dit. Il dit, c'est dans l'ordre des choses que je devienne deuxième, c'est dans l'ordre des choses que je m'efface de plus en plus, parce que c'est lui le Christ. Voici comment je résumerais l'exposé de ce matin. Si vous voulez retenir l'exposé dans une phrase, dans deux courtes phrases, voici comment je le résumerai. Ce matin, on va voir ensemble que Jésus a témoigné du ciel et que quelqu'un m'a témoigné de Jésus. Donc, ma plus grande joie, c'est de témoigner de lui à mon tour. Jésus est celui qui nous a témoigné du ciel. Et si moi, je suis chrétien aujourd'hui, si toi, tu es chrétien, tu es chrétienne, c'est parce que quelqu'un t'a témoigné de Jésus. Et notre plus grande joie maintenant, à notre tour, c'est de témoigner de lui. Dans ce passage-là, il y a un paquet de témoignages. C'est mon premier point, témoignages. Tout le passage est rempli de témoignages. Tout le monde est témoin dans le texte. Tu as les disciples de Jean qui sont témoins de ce que Jean a dit sur Jésus. Donc, Jésus, Jean-Baptiste est témoin de Jésus. Il rend un témoignage sur Jésus en disant que c'est le Christ. Il va même se servir d'une illustration de best man dans un mariage. Hein? Il dit l'ami de l'époux, c'est celui qui attend. Il est là, il est à côté. Puis là, il entend la voix de l'époux qui s'en vient. Puis, tantôt, je parlais du mariage de Camille cet après-midi. Bien, on va tous pouvoir être témoins de ce mariage-là. Ceux qui sont présents sur place, qui signent les registres, ce sont les témoins. Et donc, Jean-Baptiste est en train de dire, mais quelle joie d'être là puis de voir Jésus qui vient vers son épouse, l'Église. Donc, Jean-Baptiste est témoin, les disciples sont témoins, Jésus est témoin. Jésus est témoin du ciel. Il est le seul qui vient du ciel. Il vient rendre témoignage de ce que lui connaît et que nous ne connaissons pas. Tout le monde est témoin, tout le monde rend des témoignages. Et à quelque part, Jean est en train de pas Jean-Baptiste, mais Jean, l'auteur de l'Évangile de Jean, donc l'apôtre Jean, à quelque part, il est en train comme de nous placer dans une position, il est en train de nous interpeller et de dire, « Puis toi? » tout le monde est témoin là-dedans. Jésus est témoin du ciel. Jean-Baptiste est témoin de Jésus. Les disciples de Jean sont témoins du témoignage que Jean-Baptiste a rendu. Puis toi, tu es témoin de quoi? C'est quoi ton témoignage? Qu'est-ce que tu as à dire? Intéressant, hein? Regardons les passages rapidement. Jean, ses disciples et Jésus. Alors, les disciples de Jean, au verset 28, « Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Il dit, « Vous m'avez entendu. Vous êtes témoin du témoignage que j'ai rendu. » Donc, les disciples sont témoins. Jean-Baptiste, c'est les disciples, en parlant des disciples, Jean nous dit, « Ils vinrent trouver Jean au verset 26 et lui dire, « Rabbi ou maître, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Jean-Baptiste a rendu témoignage à Jésus. Quand Jésus est venu se faire baptiser par Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a dit, « C'est lui. » Celui dont je vous parle depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années, celui de qui je prophétise, c'est lui. C'est lui le Messie qu'on attend. Ça, c'était le témoignage de Jean-Baptiste. Puis Jésus, au verset 32, en parlant de Jésus, il dit, « Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. » Au verset 33, « Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. » De quoi est-ce qu'il rend témoignage? Il rend témoignage du ciel. Parce qu'il est le seul qui vient du ciel. Tout le monde rend témoignage là-dedans. Puis les disciples de Jean vivent de la jalousie par rapport à tout ça. On dirait, c'est mon impression, les disciples de Jean viennent voir Jean-Baptiste, puis là ils disent, écoute, tout le monde s'en va vers Jésus. Donc, ils vivent de la jalousie parce que les foules quittent Jean et de plus en plus, ils s'en vont vers Jésus, ils s'en vont suivre Jésus. Il y a de moins en moins de foules qui sont attirées par le message de Jean-Baptiste. Mais en même temps, ils ont entendu le témoignage de Jean sur Jésus. Je veux dire, s'ils avaient vraiment compris ce que Jean-Baptiste est en train de dire, logiquement, ils auraient dû dire, écoute, Jean, est-ce que tu viens avec nous? C'est parce qu'il faudrait qu'on suive Jésus. Puis Jean-Baptiste aurait dit, écoutez, c'est ça mon message, suivez-le. Moi, je vais continuer à aller l'annoncer ailleurs, puis on va se multiplier. Puis, donc, Jean-Baptiste continue à annoncer le Messie, même si Jésus est là. Mais à quelque part, soit par fidélité, soit parce qu'ils n'ont pas bien compris le message, ils sont restés avec Jean-Baptiste. Puis ils sont attachés à lui. Puis là, ils vivent un espèce de sentiment de jalousie qui fait qu'ils ne comprennent même pas le message. Vous comprenez? Ils sont attachés à Jean-Baptiste, puis là, ils restent là. Puis là, il dit, tu sais, celui de qui tu as témoigné, mais tout le monde s'en va vers lui. Parce qu'ils ont compris mon message. Mais eux autres sont attachés, ils restent là. Fait que c'est intéressant dans le passage. Ils rendent témoignage du témoignage que Jean a rendu de Jésus, puis pourtant, ils ne croient pas encore en Jésus. Ils ne suivent pas encore Jésus. Ils sont près de la vérité, mais ils n'ont pas encore toute la vérité. Je veux dire, la vérité était là. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Ils l'ont vu, puis Jean leur a dit, c'est lui la vérité, suivez-le, c'est lui le Messie. Puis ils l'ont laissé partir, ils sont restés avec Jean. Puis là, à un point tel où ils sont confus à l'intérieur, ils disent, non, mais il y a quelque chose qui ne marche pas, tout le monde s'en va le suivre. Donc, ils sont près de la vérité. Je veux dire, ils sont en train de suivre le prophète qui a été envoyé par Dieu pour annoncer la venue de Jésus. Ils sont près de la vérité, pourtant ils ne sont pas en train de suivre Jésus. Et il y a des gens qui, vont avoir énormément de respect pour Jésus toute leur vie. Il y en a qui vont même aller dans des églises, puis peut-être que c'est ton cas, tu viens à l'église, tu as beaucoup d'estime pour Jésus, tu trouves que le christianisme, c'est intéressant, il y a quelque chose de solide là-dedans. Tu es comme un pied sur le seuil de la porte, mais de là à dire, OK, je laisse tout, je suis Jésus. Et il y a des gens qui vont rester dans cette position-là toute leur vie. Estime pour Jésus, peut-être que c'est lui le Messie, mais je vais rester où je suis. Là, je suis près de la vérité, mais je n'y suis pas encore. Intéressant, hein? C'est vraiment spécial. Ils n'ont pas décidé de suivre Jésus, ils sont avec Jean-Baptiste, puis là, ça vient même comme fausser le message, parce qu'ils sont rendus qui... Non, mais là, pourquoi tout le monde te laisse, Jean? Hey, les gars, mais écoutez-vous parler ou je parle dans le beurre? Non, mais on t'aime, Jean, nous, on veut rester avec toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de vraiment embrasser la vérité? Vraiment venir à Christ? T'es près de la vérité, mais il manque encore quelque chose. Il y a quelque chose qui te retient, il y a quelque chose d'affectif qui te garde. Juste à côté d'embrasser vraiment la foi en Jésus-Christ. Je pense que le texte nous pose cette question-là. Et il y a des gens qui vont tourner autour du pot toute leur vie sans sauter vraiment dans le bain. Maintenant, il est question de témoin ici, puis on va juste se donner quelques définitions. C'est quoi un témoin? Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu ou qui a entendu quelque chose, puis qui vient, puis c'est le seul témoin. Il s'en vient dire, oui, j'atteste, là, je vous dis, voici ce qui s'est passé, je suis le seul témoin. Maintenant, des fois, un témoin est appelé pour confirmer le témoignage de quelqu'un d'autre. Hein? Tu s'en vas en cours pour dire, oui, c'est effectivement ça qui s'est passé. J'ai servi de témoin en cours pour une dame âgée qui s'était fait frauder. Et puis, on m'a convoqué en cours. Je suis allé pour témoigner, j'étais là pour témoigner qu'elle disait bien la vérité. Donc, c'était pas moi qui étais le seul témoin, j'étais là pour appuyer le témoignage de quelqu'un d'autre. D'autres fois, un témoin va être là pour attester de la validité de quelque chose, comme dans un mariage. C'est pas qu'il y a un crime qui va se passer cet après-midi. C'est quelque chose de beau qui va se passer. Mais il va y avoir des témoins qui sont convoqués pour être là, pour être témoins de ce grand moment-là qui est en train de se passer. Alors, on a des questions à se poser, chacun d'entre nous. C'est quoi notre témoignage? Jean-Baptiste témoigne de Jésus parce qu'il le connaît. Jésus témoigne du ciel parce que lui seul vient du ciel. Les disciples de Jean peuvent témoigner de Jean, mais ils ne peuvent pas vraiment témoigner de Jésus parce qu'ils ne connaissent pas vraiment. Ils sont près de la vérité, mais ils ne connaissent pas encore. Et c'est quoi ton témoignage à toi? Qu'est-ce que tu as à dire sur Christ? Sur la vérité. Maintenant, tout ce passage-là ne se concentre pas sur les gens de la terre. Le personnage central dans ce passage-là, ce n'est pas Jean-Baptiste, puis les témoins, puis les disciples. C'est celui de qui on rend témoignage. Parce qu'il y a un seul témoin qui est un témoin exceptionnel. Tu sais, il y a des gens qui survivent à une catastrophe, puis tu as un seul témoignage pour te raconter ce qui s'est passé. Il y a eu un seul survivant. Après, on va juger de la qualité de son témoignage, de sa personnalité, de son intégrité. On va le regarder aller, puis on va dire, il est crédible ou il n'est pas crédible. Puis en fait, c'est ça la question avec Jésus, parce que Jésus, c'est le seul témoin qui est venu du ciel. Et donc, c'est ça la question qu'on doit se poser. Lorsque je m'en vais rencontrer Christ dans les Écritures, quand je m'en vais lire les Évangiles, je veux aller me faire une idée sur la crédibilité de son témoignage. Est-ce que ce seul témoin-là est crédible ou non? Ça revient à ça. Ça revient à ça parce qu'il est un témoin exceptionnel. Il est le seul qui est venu du ciel, verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et il parle comme étant de la terre. Mais celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Jean dit, moi je viens de la terre. Ce que j'ai reçu, c'est Dieu qui nous l'a fait connaître, mais... Moi, je viens de la terre, je suis comme tout le monde, je suis juste un homme. Ce n'est pas moi qui détiens la vérité. Mais Jésus, lui, est au-dessus de tous. Fait que c'était un dilemme au début du ministère de Jésus. Les gens le regardaient aller, puis c'est un être humain. La Bible nous dit que Dieu, le Fils, s'est fait homme. Il a embrassé notre humanité entièrement, donc il est devenu un homme. Fait que ta première rencontre avec lui, ce n'est pas un gars qui flotte au-dessus de la terre ou qui arrive en volant avec sa cape rouge. Non, il marche comme n'importe qui. Tu peux le rencontrer dans un mariage, tout ça. Puis, Puis là, à un moment donné, tu entends, tu es au mariage, puis là, il n'y a plus de vin, puis là, ça commence à murmurer. Puis là, tu entends dire que, oups, ça a l'air que la mère de Jésus l'a amené en arrière dans le backstore. Puis là, tout d'un coup, le vin commence à couler à flot. Puis là, tu te dis, OK, c'est qui ça? C'est ça, Jésus. Tu rencontrais un être humain. Puis au fur et à mesure que tu l'écoutais enseigner, tu voyais des choses qu'il faisait, des miracles qu'il faisait. Là, tu commençais à dire, attends un peu, il vient d'où, lui? Il n'est pas normal. Il y a quelque chose de plus avec lui. Et tu découvrais, dans le fond, qu'il ne vient pas de la terre, mais que c'est Dieu le Fils fait homme. Et donc, il vient premièrement de Dieu. Il vient premièrement du ciel. Avant de rentrer dans l'histoire, il y a 2000 ans, de naître comme un bébé, il était éternellement Dieu. Et Dieu a remis toutes choses entre ses mains. Il est au-dessus de tout. Ta vie, ma vie, l'éternité, le destin de la terre, la pandémie, l'économie, Dieu a remis toutes choses entre ses mains. C'est ce que Jean nous dit dans le passage. Et donc, il est le seul qui vient nous révéler le Père. C'est le seul survivant d'une grande catastrophe qui peut nous raconter ce qui s'est passé. C'est le seul qui est revenu et qui peut nous dire ce qu'il en est. Je dois me faire une opinion, je dois juger de sa crédibilité, et sur la base de sa crédibilité, je vais croire en son témoignage. C'est le seul. C'est le seul qui peut me parler du Père, qui peut me parler de Dieu. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu au verset 32, et personne ne reçoit son témoignage. Jésus est le seul qui vient du ciel. Vous pouvez toujours consulter des êtres humains. Vous pouvez toujours consulter des hommes pour recevoir leurs conseils, mais il y en a un seul qui peut m'apporter la perspective divine, la sagesse qui vient d'en haut. Dans la gestion de la pandémie, qu'est-ce que les experts, les gouvernements font? Ils se consultent, ils cherchent des solutions, puis OK, qu'est-ce qu'on fait, comment, est-ce qu'on prend la bonne décision? Par exemple, je veux dire, c'est là tout le temps, constamment. Moi, comme chrétien, j'ai accès à quelqu'un d'autre pour savoir, Seigneur, comment tu veux que je réagisse à ça? Toi, tu viens du ciel. Le Père t'a tout remis. Quelle attitude tu veux que j'aie, Seigneur? Les hommes consultent des hommes, puis c'est la sagesse qui leur est accessible, mais moi, j'ai accès à toi. Et donc, je peux me tourner vers toi pour chercher une sagesse qui vient de toi. Puis Jésus, à travers les évangiles, nous enseigne comment quelqu'un qui reçoit la sagesse d'en haut va vivre à travers les épreuves de la vie, comment il va vivre les inquiétudes, comment il va vivre les difficultés de la vie, comment il va vivre ses rapports avec des gens qui ne l'aiment pas, avec les gens qui l'aiment, son rapport à l'argent. Jésus enseigne sur tout ça. Puis il nous apporte une sagesse qui vient d'en haut. Les hommes peuvent chercher la sagesse parmi les hommes, mais moi, je peux chercher aussi la sagesse auprès de Christ parce que je suis chrétien. Si je ne sais pas où je m'en vais dans la vie, si je me cherche, je peux me tourner vers ceux qui sont sur la terre, qui ont de la sagesse, qui ont roulé leur bosse, qui ont roulé depuis bien des années. Mais je peux aussi me tourner vers la parole de Dieu, vers la parole de Christ, pour recevoir sa sagesse parce que lui vient d'en haut. Il est au-dessus de tous. Et comme dans le passage, ce qui nous est présenté, c'est que Jésus est le Christ, le Sauveur. Je peux toujours chercher un Sauveur parmi les hommes. J'en trouverai jamais un comme Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul qui vient du ciel. Et donc, tu peux chercher, tu peux explorer dans la sagesse des hommes pour trouver quelqu'un qui va te donner les principes de vie sur lesquels tu vas construire toute ta vie, qui va donner un sens à ton existence dans l'univers, ton sens à ton existence sur la terre, le sens de la vie, de la mort. Mais tu ne trouveras jamais un Sauveur comme Jésus-Christ. Parce que tous les autres viennent de la terre. Lui seul vient du ciel. Il est au-dessus de tous. Sa sagesse, sa connaissance, sa puissance ne se comparent pas à celle des hommes. J'ai une amie qui traverse une épreuve terrible cette année. Beaucoup de souffrance. Puis on partageait ensemble comment elle était elle-même émerveillée de voir sa réaction à travers tout ça. Son calme, sa confiance en Dieu, son témoignage, la grâce qu'il y a dans son cœur. Puis tous les deux, on est en train de s'émerveiller, de dire, c'est vraiment parce que tu as cherché la sagesse qui vient de Christ. C'est vraiment parce que tu as cru en Jésus-Christ que tu peux réagir comme ça à travers cette épreuve-là. C'est vraiment fascinant, c'est vraiment beau à voir. Très, très édifiant, très touchant pour moi d'être juste témoin de ça. Jésus est celui qui connaît Dieu, c'est celui qui vient du ciel, qui nous parle de Dieu, et c'est celui que Dieu aime, parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Au verset 33, on lit « Celui qui a reçu son témoignage a certifié dans le sens qu'il a confirmé dans son cœur que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. » On reviendra à l'esprit plus loin dans Jean. « Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. » Jésus-Christ, c'est vraiment celui que Dieu nous a envoyé en disant « Je vous envoie toute ma sagesse. Je vous envoie mon Fils. Quand il ouvre la bouche, c'est mes paroles que vous entendez. On est en parfaite communion, lui et moi, depuis toute éternité. C'est celui que j'aime. Je vous l'envoie. » Je vous l'envoie parce qu'il va accomplir la mission que je lui ai donnée d'accomplir auprès des hommes. Il va venir vous faire connaître qui je suis. Il va venir donner sa vie sur la croix pour vos péchés. Il va ressusciter d'entre les morts. C'est celui que Dieu aime. Une des choses qui est difficile à accepter avec le christianisme, c'est le fait qu'on croit en Jésus seul. Hein? C'est comme offensant à notre époque. Notre vision de la tolérance, notre vision de l'ouverture aujourd'hui, c'est, ben écoute, toutes les religions se valent, tout ça, ça se vaut, ton opinion, c'est ton opinion. C'est même en train de descendre dans plein de domaines. On arrive à un point où on dit, ben, tu sais, la science, c'est assez relatif. Ben non, en principe, la science, c'est pas relatif. Peut-être qu'on n'a pas toute la science, mais la science, c'est pas relatif. La science, c'est la science, puis peut-être que plus tard, on va connaître d'autres choses qui vont nous aider à comprendre quelque chose qu'on ne comprenait pas, tu sais. Mais les faits, c'est les faits. La vérité, c'est la vérité. Et la vérité, c'est qu'il y en a un seul que le Père a envoyé, c'est Jésus-Christ. Et tu peux rejeter ça. Jean dit, dans ça ici, Jean-Baptiste, il dit, il parle de ce qu'il sait, il témoigne de ce qu'il sait, et personne ne reçoit son témoignage. Donc, littéralement, il y a des millions d'hommes, de femmes sur la terre depuis des siècles qui rejettent Christ. Ce message qu'il est le seul sauveur, qui vient du ciel et disent « Non, moi, je refuse ça. C'est pas pour moi. Ça, c'est pas ma vérité. En tout cas, c'est peut-être la tienne. » Aujourd'hui, on va le formuler comme ça. Avant, on aurait dit « Non, c'est faux. » Aujourd'hui, on va dire bah, « C'est peut-être vrai pour toi, mais c'est pas vrai pour moi. » Mais en réalité, ils sont en train de rejeter l'idée que Dieu aime le Fils et qu'il a envoyé le Fils et qu'il est le seul qui vient du ciel. C'est difficile à accepter comme vérité à notre époque, mais la vérité, c'est que ça a toujours été difficile à accepter. Il ne faut pas penser qu'il y a 200 ans, quand tu annonçais l'Évangile, tout le monde disait comme « Oh! » Tout le monde se convertissait, tout le monde devenait chrétien. Non, le cœur de l'homme a toujours eu cette espèce d'indisposition à dire « Moi, je vais devenir deuxième. » Moi, je vais me confier en Christ. Moi, je vais faire confiance à lui plus qu'à moi. Depuis la chute d'Adam et Ève, on est assez rebelles à cette idée-là. Là. Ça ne nous plaît pas, mais vraiment pas. C'est un message difficile à accepter. Maintenant, conséquemment, Dieu aime celui qui aime le Fils. Si Jésus est vraiment le seul qui vient du ciel, puis que Dieu l'aime comme son Fils bien-aimé qui a envoyé pour nous sauver. Par conséquent, Dieu aime celui qui aime le Fils. Je vous ai dit qu'il y avait plein d'émotions dans le passage. La jalousie, la colère, la joie. La colère intervient ici. Dieu dit, écoutez les amis, je vous envoie mon Fils, avec qui j'ai une communion parfaite depuis toute éternité. Je ne permettrai jamais qu'on lui fasse du mal. Si quelqu'un voulait le toucher, j'enverrais des légions d'anges, comme si Jésus avait besoin qu'on le protège. C'est Dieu le Fils. Mais on a décidé, la Sainte Trinité a conçu un plan complètement merveilleux, puis je veux dire, inimaginable. On a décidé que mon fils allait venir sur la terre et qu'il allait subir les pires atrocités entre vos mains. Et ensuite de ça, qu'il allait prendre la colère de mon jugement sur vos péchés afin que ma colère soit apaisée envers vous. On a conçu ce plan où la justice de Dieu et la grâce et l'amour de Dieu allaient être réunis dans une seule personne à la croix par sa mort et que j'allais agréer ce sacrifice-là en le ressuscitant d'entre les morts. Fait que si vous le méprisez, si vous le rejetez, si vous dites que Jésus c'est un scam, c'est un hoax, c'est une fraude, c'est pas vrai, c'est faux, ma colère demeure sur vous. Et les hommes peuvent se dire, bon, je vais m'arranger avec lui de l'autre bord. Si Jésus est vrai, on sait déjà c'est quoi l'explication, là. Tu t'es déjà rangé avec lui maintenant pour l'autre côté, si tu méprises Christ. Maintenant, c'est un texte qui parle de joie, qui parle de la joie d'être témoin. Hey, tous ceux qui vont être les 25 là, qui vont être au mariage de Camille cet après-midi, là, ça va être de la joie là, d'être là, juste à côté et dire oh, elle se marie. Être témoin de Christ, c'est de la joie. Je termine avec cette idée-là. Dans le passage, on voit que la foi en Jésus-Christ produit la vie éternelle et de cette vie-là va découler de la joie. Regardez le verset 36. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Est-ce que vous remarquez ce qui se passe avec les temps ici? Il y a un présent puis un futur. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. On va le voir au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'évangile de Jean, mais celui qui croit en Jésus-Christ, au moment où tu crois en Christ, il y a déjà un miracle qui est en train de se produire en toi. Ce n'est pas naturel à l'homme de croire vraiment. Et donc, il y a une espèce de collaboration mystérieuse entre moi qui prends une décision puis l'Esprit Saint. Hein, Jésus va dire nul ne vient au Père, nul ne vient au Fils si le Père ne l'attire. Donc il y a quelque chose de miraculeux qui est en train de se passer en moi. Et donc lorsque je crois en Jésus-Christ, j'entre à ce moment-là dans une vie nouvelle. C'est ça qui fait que Jean est en train de nous dire ici que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. À partir du moment où je crois en Jésus, déjà je mets un pied dans la vie éternelle. Puis tout le reste de ma vie sur la terre, j'ai un pied dans l'éternité, puis un pied sur la terre. Moi, je vis actuellement avec un pied dans l'éternité, puis un pied sur la terre. Littéralement, quand je vais mourir, j'ai la conviction que pour moi, ça va... Vous savez, dans les films de science-fiction, là, tu fais juste comme franchir une dimension. Joue. C'est comme ça que ça va se passer. Bon, je verrai vraiment de l'autre bord exactement. Là. Est-ce que je vais m'endormir, je vais me réveiller? Est-ce que Jésus va être là, va dire « T'es arrivé? » Je ne sais pas. Je n'ai pas les détails de ce morceau-là. Mais j'ai déjà un pied dans l'éternité. J'ai déjà la vie éternelle. Comment est-ce que je fais pour savoir que j'ai déjà la vie éternelle? J'ai déjà la joie que produit en moi le fait d'être le témoin au mariage. Puis dire « Aïe, aïe, c'est lui! » Est-ce que vous entendez sa voix? Moi, j'entends sa voix. J'ai entendu sa voix. J'ai été attiré à lui. Je fais partie des enfants de Dieu. Jean va dire, hein, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Elles entendent ma voix et elles viennent à moi. C'est la voix de l'époux qui est là. Aïe, aïe, OK, Jésus est venu, le sauveur des hommes est venu. J'ai entendu sa voix. J'ai cru en lui. Je suis entré dans la vie éternelle déjà. J'ai déjà un pied dans la vie éternelle parce que j'ai cru au témoignage de celui qui vient du ciel. J'ai arrêté d'écouter seulement les témoignages des hommes et je me suis tourné vers lui. Il y a eu des films qui sont partis sur le thème vraiment un peu triste, là, tu sais, du témoin du best man ou de la fille d'honneur qui est là au noce et qui n'est pas heureuse du tout. Je me souviens plus, il y avait un film, une comédie là-dessus. C'est comme... triste comme scène, tu sais, t'es au mariage de ton meilleur ami, puis tu dis, je suis pas content. Jean dit, écoutez, oui, j'étais une vedette, j'étais une grosse vedette en Israël, tout le monde venait me voir, il y avait des foules qui me suivaient, puis là, c'est comme, je suis un has-been. Depuis l'arrivée de Jésus, je suis un has-been. Je ne suis plus une superstar. Tout le monde va vers Jésus. Ou pour le dire à la française, je suis un has-been. Tout le monde va vers Jésus maintenant. On m'a quitté. Puis pourtant, Jean-Baptiste dit, ça c'est ma joie. Ça c'est ma joie. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Je suis deuxième. Et ça c'est ma joie. Jean va jusqu'à dire, la joie qui est mienne est parfaite. Et donc ce matin, je veux te rappeler si tu es chrétien, que tu es entré déjà. Tu es entré dans la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Et cette vie-là, si tu gardes les yeux fixés sur celui qui vient du ciel, te donne une joie que personne ne peut t'enlever. Quelles que soient les circonstances. Jean-Baptiste, je veux dire, écoutez, les temps qu'il attendait n'étaient pas très heureux. Hein? Il allait être arrêté, jeté en prison, puis décapité. Puis pourtant, sa joie est parfaite. Il est sur son déclin. Je veux dire, ça va juste aller de pire en pire, son histoire. C'est une superstar, tout le monde le quitte. Après ça, on va venir l'arrêter. Puis juste comme ça, parce que quelqu'un a une petite fantaisie, une petite coquetterie, on va le décapiter. Wow! Sa joie est parfaite. Mais ça, c'est la joie de celui qui a cru en Jésus-Christ. Garde les yeux fixés sur celui qui vient du ciel. Cherche pas constamment tes conseils auprès de ceux qui viennent de la terre. Et puis témoigne de celui qui vient du ciel. C'est le seul qui a la vie éternelle. C'est le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Sois un témoin. Tout ce que tu as à dire, c'est « Hey, moi, je suis deuxième. Je sais que la terre est troublée. Je sais que les gens sont anxieux. Je sais qu'il y a beaucoup de souffrance. Il y a de la solitude. Il y a de l'isolement. On parlait de maladie mentale cette semaine. Je vous disais, c'est là, c'est dans le plafond cette année. Je sais ça. Mais moi, je suis deuxième parce que j'ai décidé de suivre Christ. Est-ce que je peux te parler de lui? Est-ce que je peux t'aider à tourner les yeux vers lui? Et donc, je t'invite, si tu n'es pas chrétien, à choisir d'être deuxième. Reste pas près de Jésus, suis-le, crois en lui. Reste pas juste sur le côté comme les disciples de Jean, mais vraiment embrasse la foi en Christ et reçois la vie éternelle. J'invite les musiciens à venir me rejoindre, on va aller ensemble dans un mot de prière, j'aimerais prier pour nous. Seigneur Jésus, je confesse comme chrétien, dans ces temps de troubles, que souvent, j'ai les yeux qui regardent ailleurs. Je cherche parmi les hommes une sagesse pour gérer tout ce qui se passe sur la terre. Et chaque fois que mon cœur fait ça, chaque fois que mon esprit fait ça, je ne suis que davantage troublé. Parce que les hommes ne possèdent pas la sagesse pour gérer leur destinée. Ils ont beau se rassembler, chercher comment bien faire, il y a une espèce de confusion qui est là. Mais ce matin, ce passage dans Jean me rappelle que toi seul viens du ciel. Seigneur Jésus, ce matin, en Église, on veut te célébrer. On veut t'élever, on veut t'adorer, on veut fixer les regards vers toi. Nous voulons, Seigneur, être deuxième comme chrétien et te laisser tout l'honneur. Accepter que je dois m'effacer et que toi, Seigneur, tu vas prendre la place centrale dans ma vie. Je te prie pour ceux qui entendent ce message et qui peut-être n'ont pas fait ce choix-là encore. Viens, Seigneur Jésus, te révéler à eux. Viens te faire connaître à eux. Oui, qu'ils regardent ailleurs s'il y a mieux que toi, Seigneur, mais convainc-le que toi seul, en définitive, as les paroles de la vie, Seigneur Jésus. Viens saisir nos cœurs et remplis-nous de louanges et d'adoration ce matin. C'est en Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen.